Ok, donc la dernière fois, on a commencé à parler des problèmes du temps. Comment se fait-il que la Torah dit que le monde a 5765 ans et des poussières, alors qu'il est clair qu'il a 13,9 milliards années, environ 15 milliards, on va dire. Alors on avait dit les fausses explications des rabbins, qui étaient au nombre de 3, que je sache, peut-être qu'il y en a plus que je ne connais pas. Les jours, ce ne sont pas des jours, ce sont des airs. On a refuté ça, on ne peut pas se moquer de la Torah. La Torah a bien dit des jours. Il fut soir et fut matin, un jour. Deuxième tiroute, deuxième solution, bidon, il y a eu des mondes avant. La Torah vous dit oui, mais ce sont des mondes spirituels. Troisième réponse bidon, Dieu, c'est un blagueur, il a créé un monde tout jeune qui a l'air très très vieux, et pour que le piège soit bien fait, il a mis des faux dinosaures sous terre et des faux lucifères de Néandertal. Voilà. La solution, à mon avis, la bonne solution, on la doit à Albert Einstein. J'ai commencé hier à expliquer la relativité, qu'il y avait deux sortes de relativité, la relativité générale, qui date d'il y a quelques siècles déjà, et la relativité mécanique, qui date d'il y a quelques siècles, et la relativité générale. Qu'est-ce que la relativité générale? J'étais en train d'expliquer cela. Que tout le monde est d'accord au niveau de la relativité mécanique, lorsque j'ai un point qui se déplace dans l'espace, on va dire mon ver de thé dans l'avion, à quelle vitesse est-ce qu'il vole? Pour le berger qui est sur Terre, il vole à 900 km à l'heure. Pour moi et l'hôtesse, elle me verse à une vitesse de 2 km à l'heure le thé dans le ver. Donc on peut avoir deux références, deux temps, qui vont changer en fonction du référentiel, pour le même déplacement, pour la même vitesse en fait. Tout dépend du référentiel. Ça, c'est une chose qui est très claire. Ce que découvre Einstein, c'était qu'une théorie à l'époque, il va dire, ce qui est valable au niveau de la relativité mécanique, au niveau des déplacements dans la mécanique, c'est-à-dire dans l'espace, est valable aussi au niveau du temps. Le temps est une chose qui est relative. Relative à quoi? Relative à la matière. Si tu changes les conditions de matière, tu vas changer le temps. C'est quoi les conditions de matière? En gros, la vitesse de déplacement dans l'espace, lorsque tu déplaces très rapidement dans l'espace, alors la matière bouge, tu bouges, tu es en train de bouger dans la matière, le fait de bouger dans la matière va influer sur le temps. Ou bien aussi, si tu te trouves près d'un champ de gravitation très grand, dans un champ de gravitation très très grand, là aussi ça va influer sur le temps. La matière va influer sur le temps. Si tu changes la matière, ça change le temps. Ça, c'est la théorie que va dire Einstein. Un de ses élèves, si je me souviens bien, s'appelait Longjumeau, va illustrer cela par exemple suivant. Il dit, imaginons que nous avons deux frères jumeaux. Les deux ont eu aujourd'hui 20 ans, Mazal Tov, et on leur a offert pour leur anniversaire une montre Rolex. C'est les montres suisses. Je rappelle que je viens de Suisse. C'est des montres de très grande valeur, très très précises. Et les deux sont très contents de recevoir leur montre Rolex. Et le frère aîné, parce que dans les jumeaux, il y a aussi un frère aîné, il reçoit en plus, en supplément, l'aîné reçoit un peu plus, d'après la Torah, il reçoit en supplément un voyage dans l'espace en navette spatiale. Colombien, mais colombien mieux. Une navette spatiale qui vole dans l'espace à une vitesse extrêmement rapide, on va dire la moitié de la lumière, 150 000 km par seconde. Une vitesse extrêmement grande qu'aucun vaisseau spatial ne peut atteindre aujourd'hui, loin de cela. Et il a droit à un voyage dans l'espace de 24 heures. Il est tout content, il monte dans sa navette spatiale et il part dans l'espace. Il fait un voyage de 24 heures. 24 heures, qu'est-ce qu'il fait? Ben, c'est un bon juif, il fait Shachrit, il fait Mincha, il fait Arvit. Après, il fait Birkat Amazon. Donc, il reste pas beaucoup de temps. Il regarde un peu les planètes, Vénus, la galaxie NGC, je ne sais pas quoi. D'accord? Hop, 24 heures, il dort un peu. 24 heures, il revient sur Terre. Quel âge a-t-il en venant sur Terre? Quel âge il a?
20 ans et 1 jour.
20 ans et 1 jour, bravo! C'est assez simple, d'accord? 24 heures pile. Il a 20 ans et un jour. Ça veut dire qu'il a vieilli d'un jour. Ses cellules vivantes sont reproduites pendant un jour. On peut maintenant l'amener au laboratoire de biologie. On peut calculer maintenant. On verra qu'entre hier et aujourd'hui, il y a eu un développement de ces cellules de 24 heures. Longjumeau, Einstein prétendent. C'est vrai. Mais en attendant sur Terre, sont passés 1000 ans. Son frère jumeau jumeau est déjà mort, enterré, poussière, et la montre Rolex qui était garantie anti-rouille, rouillée, elle n'est pas garantie pour 1000 ans. Comment ça se fait? 1 a 20 ans et un jour, l'autre il y a 1000 ans qui sont passés, c'est pas clair. Le temps devrait être le même partout. Aïcha répond non, le temps n'est pas la même chose partout. Le temps est influé par la matière. Or, vu qu'il a fait un voyage dans l'espace d'une vitesse très très grande, ça provoque une influence sur le temps, une dilatation du temps. Lui, il vit 24 heures. Mais ces 24 heures sont 24 heures pour lui, pour son frère. Son frère, il dit, dis donc, hein, franchement, c'est pas sympa. Il m'a dit 24 heures, ça fait déjà 2 jours, 3 jours, 6 mois, 1 an, 10 ans, 30 ans, 40 ans. Déjà un vieux pépé, le vrai jumeau, il est parti pour 24 heures, il est parti pour 24 heures. Toujours pas revenu. Et ici, deux référentiels. Le référentiel Terre, où sur la Terre, tu te balades, tu te tournes à la vitesse à laquelle tourne la Terre, c'est pas grand chose. Et l'autre frère qui est dans la même spatiale qui va très très vite. Il faut savoir, juste en parenthèse, que lorsqu'on va, on vole très rapidement dans l'espace, à une vitesse qui est voisine, moitié, le tiers ou deux tiers de la vitesse de la lumière, ça influe même sur la matière. Je prends ce crayon. Hein, ça, j'ai lu dans un bouquin écrit par Einstein et Infeld. C'est un bouquin qui est écrit en 1936, Évolution des idées en physique. L'évolution des idées en physique. D'accord? Écrit par Einstein lui-même, traduit en français, dans l'édition poche, n'importe où on peut l'avoir à la FNAC. Passionnant. Il dit un crayon qui est maintenant dans une navette spatiale qui voyage à une vitesse voisine de celle de la lumière. Ce crayon, bien qu'il est dans la cabine, donc il n'a aucun frottement avec l'air de l'extérieur, ce crayon, il diminue de moitié. Même la matière, elle change. Chose que nous ne comprenons pas. Et ça, c'est Einstein qui le dit. Théoriquement, personne ne peut le prouver, d'accord, c'est dans la tête, dans les chiffres. Jusqu'aujourd'hui, personne n'a pu prouver le contraire, au contraire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était une théorie, on l'a expérimentée. Pas celle-là, celle du temps. Les scientifiques ont fait cette expérience à Washington, comme ça j'ai lu dans les bouquins. Lors d'une de mes conférences, quelqu'un s'est levé, un physicien dans la salle, et m'a dit que lui-même a participé à la même conférence, à la même expérience, à Toulouse, ils ont fait la même expérience. Qu'ont fait les physiciens? Ils ont pris 3 horloges au césium. Ce sont des horloges atomiques au césium, précises aux nanosecondes. Nanosecondes, c'est milliardième de seconde. Et on laisse les horloges ensemble, d'abord pour voir qu'il n'y ait pas de dérive. Parce que dans une précision pareille d'une milliardième de seconde, donc c'est très facile d'avoir un dérèglement, une dérive. Donc on regarde d'abord qu'il n'y ait aucune dérive, que vraiment elle fonctionne pile poil à la synchronisée comme il faut. Après quoi, ils ont laissé une des horloges à Washington, et les deux horloges ont fait le tour du monde en avion, c'est à l'époque, il y a une cinquantaine d'années, en DC-8 à hélice, des petits avions comme ça, à une vitesse de combien? 600-700 km à l'heure, c'est pas grand chose. Ils ont fait le tour du monde en avion. Une a été par l'est, avec, donc si on va par l'est, alors on va avec le sens de rotation de la Terre, et une a été par l'ouest, contraire au sens de rotation de la Terre. Donc au niveau des vitesses, dans l'absolu, tu as des vitesses qui sont différentes. Là, l'avion, il vole à 700 km à l'heure, c'est vrai, mais un, il revient plus vite à son point de départ, alors que l'autre, ça lui prend plus de temps d'arriver. Et on ramène les horloges à Washington, et on voit aux stupéfactions qu'entre les horloges, il y a plusieurs centaines de nanosecondes de différence. Quelques centaines de nanosecondes, pour nous, c'est rien. Quelques centaines de millièmes de seconde, c'est moins que ça. Beaucoup, beaucoup moins que ça.
Un coup de vent, ça peut le faire sur un avion.
Qu'est-ce qui fait le coup de vent sur l'avion?
Il y a du vent, et ça ralentit l'avion de un nanoseconde.
Ça ralentit l'avion, mais l'heure reste la même heure. L'avion, il monte, il descend, il va au Honolulu, il repart, il n'a pas fait tout d'un coup. Il s'est amusé, il est allé à l'hôtel, et le pilote, il a fait ce qu'il voulait. Mais le temps restait le même temps. Pourquoi maintenant, quand je fais un déplacement dans l'espace, ma montre, il n'y avait pas la montre au poignet, il y avait la montre dans son avion, ça monte, mais une autre heure. L'heure, c'est la même partout dans le monde. On aurait cru avant cela. Ce qui est devenu, ce qui était théorie, est devenu réalité physique. Aujourd'hui, n'importe quel physicien qui s'occupe de cette notion de temps, il le sait. C'est très clair.
En moins, il y avait l'heure.
Hein?
En moins,
il y avait quelques secondes en plus et en moins. Ça dépend de quelle montre. En plus et en moins, quelques centaines de nanosecondes. Donc ce qui était théorie ou maintenant réalité. Que lorsque tu fais un déplacement dans la matière, tu changes la matière un peu, ça change déjà le temps. Tu vas changer beaucoup, ça va changer beaucoup. J'ai un copain qui est physicien, mon chez Buff, un Baltois, il habite avec les bains, il travaille dans les appareils de mesure dans la centrale nucléaire. Il m'a dit que on sait que dans l'espace, il y a des trous noirs. Partout où tu regardes dans l'espace, tu vois de la lumière. Il y a, on a découvert jusqu'à aujourd'hui, 5 endroits dans l'espace où c'est tout noir. On ne sait pas ce qui se passe là-dedans. Pourquoi c'est tout noir? La théorie actuelle depuis au moins 20-30 ans est la suivante. C'est que dans ces endroits-là, il y a une planète tellement grosse qu'elle attire vers elle extrêmement fort. Même les particules les plus légères de l'univers, qui sont les photons, les particules de lumière, sont happées par cette planète. Hein, il y a 4 lois de base de la nature. La première, gravitation universelle. Deuxième, c'est la force électromagnétique. Troisième, la force radioactive faible. Et la quatrième, force radioactive forte. Une, si vous voyez bien, qui tient la force qui tient le noyau de l'atome ensemble, et l'autre qui fait que, je crois, les électrons ne partent pas dans l'atome. Si je me souviens bien, il y a une qui est la faible, une qui est la forte, qui font que l'atome reste ensemble. La première, qu'on appelle en tout cas aujourd'hui la première base de la nature, loi de base de la nature, gravitation universelle. Ça veut dire quoi? Vous pouvez ouvrir un peu parce que c'est un peu chaud, merci. La première loi de la nature, gravitation universelle. C'est quoi gravitation universelle? Je lâche le crayon, il tombe. Pourquoi? Alors les fausses solutions que les gens disent, il y a un aimant dans la Terre, il est attiré par le noyau de la Terre, qu'est-ce que j'en sais, la force centrifuge, centripète, toutes sortes d'idioties terribles. La vraie raison, c'est que chez Newton, une masse, elle attire. Plus une masse est grosse, plus elle attire. La Terre, c'est une masse quand même assez grosse, la planète Terre, elle attire vers elle. Le crayon n'a pas beaucoup de masse, il attire moins. Donc les deux s'attirent quelque part, d'accord? Le crayon l'attire, la Terre vers elle, mais le crayon il pèse pas lourd par rapport à la Terre. Donc la Terre attire beaucoup plus le crayon que ce que le crayon attire la Terre. Et quand tu lâches le crayon au bord de la mer à altitude 0, tu peux même calculer à quelle vitesse, 9,81 à la seconde. 9,81 mètres à la seconde. D'accord? Ça c'est Newton. Tu prends un crayon, on va dire autrement, tu prends cette table, tu vas sur la Lune. Sur la Lune, c'est une étoile qui est beaucoup plus petite, elle est beaucoup...
6 fois moins longue.
Elle est 6 fois moins forte, donc elle va attirer beaucoup moins fort, il y aura moins de gravitation. Parce que sur la Lune, tu prends avec le petit doigt, tac, tu peux soulever la table. Je dis toujours aux femmes qui sont un peu fortes, allez vous peser sur la Lune, vous pèserez 6 fois moins. Je ne suis pas très content. Quand vous pesez, 26 kilos. 150 kilos ici, d'accord. 26 kilos. D'accord, c'est gentil. Sur la Lune. Prenez ce crayon, allez sur Jupiter. Il pèse une tonne. Jupiter, qui est une planète beaucoup plus grosse que la Terre, donc attire beaucoup plus fort. Ce crayon, il faut un tracteur, un grue pour soulever, parce que ça attire très très fort. Plus tu as une masse qui est importante, plus elle attire vers elle très fort. On pense, personne n'allait vérifier là-bas, mais on pense que dans ces trous noirs, il y a des planètes, des soleils tellement gros, que sur un rayon de quelques milliers d'années-lumière, ils attirent vers elles toutes les planètes, tout ce qui est, toutes les poussières, tout ce qui se passe. Donc c'est un soleil incandescent. Mais il est tellement gros, tellement énorme, qu'il empêche même la lumière de sortir. La lumière qui veut sortir, on appelle ça une force de libération. Il y a une limite de libération où la force de gravitation, elle ne peut plus retenir la force, la lumière qui veut sortir. La force de gravitation, elle est plus forte que le seuil de libération. Et la lumière qui veut sortir, elle est happée en retour par le champ de gravitation. Donc toute la lumière qui se trouve dans quelques milliers d'années-lumière autour, elle est happée par ce trou noir, et quand tu regardes au télescope, tu n'as aucune lumière qui arrive, donc tu vois tout noir. Et m'a dit, mon cher ami Moshe Buff, que les théoriciens disent que dans ces planètes, sur ces planètes-là, le temps s'arrête. Ne me demande pas ce que ça veut dire, il m'a dit, mais le temps s'arrête. Et c'est aussi une notion d'Einstein que non seulement la vitesse, la rapidité, si tu vas très rapidement dans l'espace, ça provoque une dilatation du temps, mais aussi à ton approche d'un champ de gravitation qui est extrêmement gros, comme dans ces trous noirs, La gravitation est tellement grosse, la matière est tellement différente que ce que nous sommes habitués ici, ça provoque une dilatation du temps qui arrive même à un arrêt du temps. Alors comment on vit dans un arrêt du temps? Je sais pas. On vit, mais le temps ne passe pas, ça veut dire quoi? C'est assez... Bon, c'est une chose qu'on ne peut pas concevoir. Mais il faut qu'il y ait du temps. Toi, tu as un déroulement dans le temps. Bon, c'est très dur pour nous, vivant dans le temps, de penser au non-temps. Ça rejoint un peu... Parce que là, on répond à beaucoup de questions au niveau quand on parle de Dieu, d'accord? Moi, qu'on ne peut pas parler à des outils qui sont dans le fini, on ne peut pas parler de l'infini. C'est impossible. Impossible. On peut parler... au niveau comme je suis en train de parler, théorique, ouais. Mais comprendre. Tu ne peux pas comprendre ce que toi, tu vis dans le temps. Comment tu peux comprendre une chose qui est hors du temps?
Non, mais théoriquement, si on va vivre sur une planète où la densité est plus grosse, alors on vivra plus longtemps.
On verra plus longtemps.
Mais qu'est-ce que tu entends par densité?
Est-ce qu'on vivra plus longtemps? D'abord, tu ne vivras absolument pas plus longtemps. Alors que toi, maintenant, tu verras le même temps que tu vas vivre. Comme le frère jumeau qui est parti dans la navette spatiale. Lui, il a vécu un jour.
Ok.
Il va mourir. Ici, il doit mourir à 120 ans. Il mourra à 120 ans, pas un millimètre de plus.
Dans un trou noir, on devient éternel.
Dans un trou noir, Oui, mais tu ne deviens pas. Il n'y a pas de devenir.
Non, si on avait les conditions possibles, il y avait l'oxygène, avec tout ce qu'il fallait.
Non, je ne parle pas de ça.
Éternel.
Mais tu es hors du temps.
Oui, tu es hors du éternel. On ne meurt pas. On ne va pas mourir. Parce
qu'on mais tu n'as pas le temps. Aujourd'hui, tu as un avant, tu as un présent, tu as un futur. Maintenant, s'il n'y a plus cela. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vis?
Ça m'empêche pas de respirer.
Respirer, ça commence et ça finit. Hors du temps, ça veut dire quoi? Hors du temps, il n'y a pas le temps. S'il y a une respiration, il y a un début de respiration, il y a une fin de respiration. Fin, début, ça veut dire qu'il y a un temps. Là, il n'y a ni fin, ni début.
C'est inconcevable.
Tout au même moment.
Ça veut dire que je peux pas respirer?
Tu peux respirer, mais tu es hors du temps. Que tu veux que je te dise? Non, c'est pas ça, mais
pas
bah, tout est à la fois. Ta naissance, ta mort, ta respiration, ton mariage, ta barba, tout est à la fois. C'est ça, hors du temps. Hors du temps, tu vis tout à la fois. Ok? Ça, c'est Dieu. C'est pas Dieu. Dieu est hors du temps. Donc, il voit tout à la fois. Ok? Ce sont des choses profondes. Ok, maintenant, donc on a appris une chose, que ce qui est valable au niveau du verre de thé qui se déplace, que deux référentiels différents peuvent donner une vitesse différente, est valable aussi au niveau du temps. Deux référentiels, le frère jumeau qui est dans la navette, ou le frère jumeau qui reste sur Terre, ils auront une autre perception du temps. Pour le même temps, un dira c'est 24 heures, l'autre dira c'est 1000 ans. Dès lors, il n'y a plus aucun problème au niveau de la création. Parce que imaginons que nous sommes maintenant une équipe de scientifiques et on a une machine hypothétique qui nous permet de remonter dans le temps et on a envoyé par l'équipe scientifique du journal Science et Vie, l'humanité, je ne sais pas, donnez-moi un journal, New York Times, on a envoyé par New York Times pour aller faire un scoop réel du Big Bang. Alors on a installé une estrade ici sur l'épaule du bon Dieu, imagé bien sûr. Et on est avec nos planches à écrire, nos chronomètres, et on regarde. Voilà. Alors, j'ai dit hier qu'on ne pouvait pas dire qu'il y avait un avant Big Bang. Mais admettons, ok, il n'y a rien. De coup, il y a. Ça commence. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, on a le petit millimètre, beaucoup moins, de magma dans lequel se trouve insérée toute la matière future du monde. Une température de 10 milliards de degrés, 1819 degrés. Et un champ de gravitation de combien? Le trou noir à côté, c'est un petit gosse. T'as un champ de gravitation égal à tout l'univers réuni à un endroit. Alors, combien de gravitation tu as? Le din, c'est très intéressant d'après la Kabbalah, hein. C'est tamtsit ha-din, c'est marqué le Rabbi Hamital, il dit tamtsit ha-din. Je ne sais pas ce que ça veut dire. La réduction, le substrat du din qui est dans l'infini. Din, c'est toujours tenir, prendre. Chesed, c'est donner. La rigueur, c'est de ne pas donner. Donner que si tu mérites. C'est le din. C'est prendre. Un substrat de toutes les forces de rigueur de l'infini est venu dans un point. Comme ça, il dit. C'est extraordinaire. Hein. Donc, c'est le din. C'est le plus gros. C'est le champ de concentration, la concentration universelle, la plus grosse qu'il puisse y avoir. Et là, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Tu vois rien. Tout noir. Champ gravitation. T'as un soleil qui fait 10 milliards de milliards de degrés Celsius. Donc tu vois, c'est éblouissant. T'as des lunettes de soleil grosses comme ça normalement. Tu vois rien, tout noir. Pourquoi? Parce que la lumière, elle est happée en retour. Ni ultraviolet, ni infrarouge, rien du tout. Tout est dedans. Et, dit la mystique juive, dit les scientifiques, c'est quand même la même chose. Dit la Torah, une force apparaît, dit la Torah, Elohim, Elohim c'est la valeur numérique, la nature, dit que la lumière soit une force qui est lumière. Ça veut dire que quoi maintenant? Que ce digne qui doit rester, ce morceau qui doit rester en lui, anormalement, il se met à grandir, à grossir. Qu'est-ce qui se passe quand il grossit? C'est en 2 secondes. C'est environ 5 fois, faut dire, milliards, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards de secondes. À peu près ça. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Et tout va très très vite. J'ai chez moi à la maison, il faut dire, les premières...
J'ai vu un article qui disait que rien que l'apparition de la lumière, déjà ça a pris des millions d'années au Big Bang. Donc, du temps que les atomes se mettent en fonction de tout ça, ça a pris des millions d'années.
Bon, il se peut. C'est pas contraire à ce que je dis. En tout cas, moi je dis que ça allait très vite, parce que tu verras que ce grossissement de la boule, elle est extrêmement rapide. Je vais voir les chiffres bilinaires la prochaine fois. Attends, on est loin du jour là, laisse tomber. D'accord? On est en train de regarder maintenant. Et pour nous, ça va très très vite. Parce qu'on voit maintenant, tac, ça grandit. À mesure que ça grandit, le champ de gravitation va baisser. Première chose qui va s'échapper du champ de gravitation, qu'est-ce que c'est? La lumière. Particule la plus légère, les photons. Que la lumière soit, la lumière fut. Tout à tout, une explosion de lumière dans l'univers. Et toi, tu es maintenant avec tes chronomètres, tu prends des notes, et tu vois comment ça éclate, ça éclate, ça éclate. On arrive à ce qui s'appelle la soupe de particules élémentaires. Au début, il n'y avait pas des atomes, ni des quarks, et encore plus petit que cela, des particules élémentaires, qui sont éparpillées dans l'univers entier. On appelle ça une soupe. Et sont relativement éloignées les unes des autres. Mais par le champ de gravitation, elles vont commencer à s'attirer, se mettre ensemble. Formation de quarks, particules d'atomes. Après, formation d'atomes. Après, de molécules. Après, de petites poussières. Après, de cailloux, de rochers, d'étoiles. Et comme ça, tout le monde qui est créé. Bon, on a vu déjà pas mal de choses. On reprend notre planche, on arrête les chronomètres, on revient ici, en l'an 2005. On va à la rédaction scientifique du New York Times, on a écouté, on était là-bas, extraordinaire, on a des photos et tout ça, le temps. On montre, regarde ce qui s'est passé durant les 24 heures, on a pris 24 ans, on était là-bas. Durant 24 heures, ce qui s'est passé? Les scientifiques disent, mais t'es ma boule, tu me dis ça en 24 heures? Moi, je vois aujourd'hui, avec mon télescope, ce que tu es en train de me raconter, ça a pris des milliards d'années. Ça a pris 2 milliards d'années.
C'est ce qu'il disait sur la lumière.
Ce que tu as dit. C'est dans millions, c'est dans milliards. Parce qu'il y a du plus. Ça sent de la Terre, on parle premier jour. Lumière, Terre. Ça a pris 2 milliards, 3 milliards d'années, ce que tu me racontes. J'étais là-bas, nos copains aussi. On a tourné. Ça a pris 24 heures. Qui a raison?
Les deux
ont raison. On parle de référentiels différents. Il est impossible que depuis la planète Terre, quand tu regardes avec ton télescope, tu aies la même référence temps que lorsque tu es en train de vivre un Big Bang. Quand tu vois le Big Bang, quand tu vis un Big Bang, on a dit que quand tu es dans un trou noir, le temps s'arrête. Là, tu as le super grand trou noir de toute l'histoire. Un champ de gravitation énorme. Après, tu as la matière qui éclate à vitesse de la lumière. Tu as tout qui éclate à 300 000 km à la seconde. La lumière, elle part à 300 000 km à la seconde. C'est impossible, complètement impossible, que le temps que tu as lorsque tu vis les éléments, tu vis les événements à l'époque, soit la même perception du temps que tu as aujourd'hui. Donc, n'importe quel scientifique dans le B.A.B.A. tu diras, il n'y a aucun problème. Moi, quand je dis c'est 15 milliards d'années, je parle d'après moi aujourd'hui sur Terre. C'est vrai. La Torah, elle n'a rien à faire de ce qu'il dit scientifique aujourd'hui. Elle dit Dieu qui était sur place. Dieu, il parle un message de vérité. Il ne parle pas pour les hommes qui vivront en l'an 2005. Il parle, moi, Dieu, maintenant. Quand on vit le moment présent, je te raconte, ça a duré 24 heures. Vrai ou faux? Vrai, archi vrai. Il ne peut même pas avoir un autre discours, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'autre réalité. C'est la seule réalité du temps qu'il y a. Il n'y en a pas d'autre. Aujourd'hui, on pourrait dire, par exemple, on pourrait dire, est-ce qu'aujourd'hui, le soleil se lève et se couche? Ou non, il est immobile, et moi, c'est moi qui ai une rotation. Ça dépend de quel point de vue tu parles. Du point de vue sur la Terre, le soleil se lève et se couche. Du point de vue extérieur, quand tu regardes les deux, non, toi, tu es immobile. Le soleil est immobile, c'est la Terre qui tourne. Tu as des référentiels différents, ça dépend de quel langage tu veux. Mais quand tu parles maintenant, au moment même, est-ce qu'il y a deux, simultanément, est-ce qu'il y avait deux discours? Il y en a un seul. Celui de Dieu. Celui de la réalité de ceux qui étaient là-bas. À l'époque, il n'y avait que Dieu, il n'y avait pas d'équipe scientifique là-bas. Dieu te dit, ça a duré 24 heures. N'importe quel scientifique te dira, il n'y a aucun problème. Ça tient tout à fait la route. Parce qu'il est certain que si on prend, et figurez-vous qu'il y a un scientifique américain qui s'appelle Gerald Schroeder, dont j'ai l'article chez moi à la maison. D'habitude, je n'en parle pas dans les conférences parce qu'ils m'ont des calculs extrêmement compliqués. Moi, je ne suis pas un scientifique de formation, c'est beaucoup trop calé pour moi. Mais il prend en considération les champs de gravitation, les vitesses d'explosion de la matière, de l'éclatement de la matière dans l'univers, et il prend 15 milliards d'années. Et d'après le calcul, ça signifie 6 jours. Pour nous, 15 milliards d'années, si nous on était sur place, ça aurait duré 6 jours. Et après, si on prend après l'évolution de l'époque, il dit ça fait des frissons dans le dos, ce type-là, il écrit comme ça. Quand tu prends le Cambrien, le pré-Cambrien, toutes les époques maintenant de la préhistoire, qui correspondent, il dit ça correspond même au niveau du temps, aux époques dans les 6 jours. Mais ça, je vous le dis en bakchiche, c'est pas une chose que je peux aujourd'hui. Assuré, parce que moi-même, je n'ai pas, c'est un scientifique qui dit cela. Ce que ça vaut, je ne sais pas. En tout cas, sachez que, il y a un qui dit que ça revient à 6 jours. Peu importe. Ce qui est important de savoir, c'est que du point de vue de la science, Einstein, la relativité générale, il n'y a aucune contradiction à dire le monde a 15 milliards d'années ou le monde a 6 jours. C'est exactement la même chose. Tout dépend de ton référentiel. La Torah sera d'accord que pour notre référentiel, c'est 15 milliards d'années. La Torah dit, je ne vois pas ton référentiel. Je parle du référentiel de la création. La création, c'était 6 jours. Si toi, tu étais là-bas, tu aurais vécu 6 jours aussi. C'est quand que le temps de la création rejoint notre temps. En d'autres termes, c'est quand que le frère aîné qui était dans la navette spatiale, il rejoint la Terre et les deux frères sont nouveau dans le même référentiel. C'est le vendredi, 14e heure de la journée, donc 2e du jour en comptant 12 heures de la nuit, lorsque le premier homme va être créé, que commence d'après Chazal, c'est marqué dans Tosfot Daf 11 de traité de Rosh Hashanah. Là, à ce moment-là, précisément, c'est un moment extrêmement précis dans l'histoire, au milliardième de seconde, c'est très clair quand c'était. Alors, comment le système cosmique a fonctionné? Là, on rentre dans le même perception, même référentiel du temps qu'il y a jusqu'à aujourd'hui. Quelle heure est-il?
Moins qu'un.
Reste à poser la question maintenant, que je pose, et on verra ça dans le prochain épisode. Tout cela est valable au niveau de la création du monde. 15 milliards d'années, 6 jours, ça marche. Mais qu'est-ce qu'on fait des dinosaures? Qu'est-ce qu'on fait? Dinosaures, encore on peut dire, dinosaures ont été créés le jeudi. Le jeudi, c'est donc encore la période où le temps est différent que le nôtre, donc je n'ai pas de problème. Mais qu'est-ce qu'on fait de Lucie? Lucie, si c'est un être humain, et on a, il semblerait, on pourra encore en parler de la prochaine fois, des vestiges de civilisation humaine antérieure à 6000 ans, comme il y en a qui croient, mais en fait c'est faux, d'accord. Mais admettons qu'on découvre maintenant des êtres humains datant d'il y a 300 millions d'années, comme on dit à propos de Lucie. En tout cas, même si c'était pas, on va dire, si c'était un être humain, alors là, ça marche plus, parce que l'être humain est créé le vendredi. Or, le vendredi, on rentre maintenant dans le même référentiel que nous. Donc, tu peux avoir au maximum un nonos qui a 5000, un nonos humain qui a 5765 ans, pas un jour de plus. Comment ça se fait? Ce sera l'objet d'un cours la prochaine fois. Merci beaucoup.